en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le mercredi 15 mars 2006, sous la coupole de l'Institut de France, M. Claude Parent est reçu à l'Académie des Beaux-Arts par son confrère architecte Roger Taillibert. Élu le 13 avril 2005 à l'Académie des Beaux-Arts dans la section d'architecture au fauteuil précédemment occupé par Jean Balladur, Claude Parent est né le 26 février 1923 à Neuilly-sur-Seine. En 1936, il rejoint l'atelier de Noël Le Maresquier aux Beaux-Arts de Toulouse. 10 ans plus tard, il arrive à Paris et effectue des stages dans de nombreux ateliers, notamment ceux de Jean Trouvelot et de Charles Le Corbusier. Architecte dès 1955 à Neuilly-sur-Seine, il est membre de 1955 à 1988 du comité de l'architecture d'aujourd'hui, membre de l'Académie d'architecture, directeur du Collège des architectes du nucléaire, cofondateur en 1968 puis rédacteur en chef de la revue Architecture Principes, ancien chroniqueur à l'architecture d'aujourd'hui. En 1962, Claude Parent conçoit avec d'autres collègues architectes la maison de l'Iran à la cité universitaire de Paris. De 1964 à 1968, il travaille avec Paul Virilio, avec qui il met au point la théorie de la fonction oblique. Il entreprend aussi, jusqu'en 1973, une action de vulgarisation de l'architecture dans le cadre des maisons de la culture. Et parallèlement, il réalise de grands ensembles commerciaux, des ensembles socioculturels, notamment des maisons des jeunes, un édifice religieux, l'église Sainte-Bernadette à Nevers, des immeubles de bureaux et des immeubles à l'étranger, des collèges et des lycées. Claude Parent a beaucoup travaillé également dans le domaine de l'architecture nucléaire. Il est l'auteur de nombreux ouvrages tels que « Vivre à l'oblique, 5 réflexions sur l'architecture », Errer dans l'illusion, Quand les bouffons relèvent la tête et bien d'autres titres encore. Il a reçu le Grand Prix national d'architecture pour l'ensemble de son œuvre en 1979. Canal Académie vous propose d'écouter maintenant le discours de réception prononcé par M. Roger Taillibert, membre de l'Académie des Beaux-Arts, puis vous pourrez entendre le discours de M. Claude Parent qui prononce l'éloge de son prédécesseur Jean Balladur.
Monsieur le chancelier, messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs, mes chers confrères. Monsieur, le 27 février 1943, alors que Paris et la France étaient réduites au silence face à la barbarie nazie, Auguste Perret se trouvait à votre place, en ce lieu, bastion inviolé, garant de la connaissance et de notre patrimoine. Auguste Perret, Le Corbusier et Claude Parent sont classés parmi les absents du parchemin universitaire. Ont-ils été éloignés pour cela des activités professionnelles ? Bien au contraire, vous en constituez, monsieur, les exemples. À cet effet, vous connaissant depuis nos débuts, je suis convaincu que vous serez très attentif aux propos qu'Auguste Perret prononça lors de son investiture. L'architecture est un langage, l'architecte un poète, qui pense toujours construction. Si la structure est digne de rester apparente, l'architecte aura bien rempli sa mission. Sans copier, en utilisant des procédés connus qu'il a fait évoluer pour obtenir des résultats innovants, c'est bien la durée de l'édifice qui crée le passé, de même que sa beauté qui, si elle est associée au vrai, devient le fruit de la connaissance en dehors de la rage du temps. Monsieur, à première vue, vous êtes l'incarnation d'un architecte non formaliste. Je pourrais d'ailleurs m'arrêter ici et vous dire que ces quelques phrases définissent à jamais l'architecture que vous avez tant défendue, théorisée et construite. Vous n'avez pas souhaité passionnément faire partie de notre institution. Pourtant, je crois que vous n'aviez rien à craindre de cet accueil qui ne vous traitera pas inamicalement. Je constate bien au contraire qu'aujourd'hui, vous avez pu trouver un costume à votre taille pour habiller de vert et de noir. Comme il vous sied désormais, vous avez revêtu ce magnifique costume que l'histoire nous a concédé. En plus, vous avez mis un gilet noir, ce qui n'existait pas suivant la tradition. Vous avez encore voulu démontrer que vous étiez un personnage à part. Mais cette nouvelle cuirasse, si convoitée par certains, ne vous changera pas. Vous fûtes pourtant un éternel contestataire et par conséquent, aux yeux de certains, un ennemi de cette Académie. Si cet habit vert devient maintenant pour vous la prison du silence, pourtant, vous ne resterez jamais dans l'ombre. Si vos amis et vos ennemis se trouvent réunis ici autour de vous, c'est qu'ils partagent, j'en suis persuadé, votre joie et la nôtre. Je souhaiterais à présent tourner avec vous quelques pages de l'histoire de votre passé et me pencher sur votre biographie afin d'évoquer ensemble votre jeunesse tumultueuse alors que vous portiez déjà en vous l'idée d'être un grand. Dans le premier chapitre de votre livre, « Un homme et son métier », je relève, rien ne me destinait à l'architecture. Né d'une mère pleine d'amour pour ses enfants et d'un père aviateur et ingénieur des arts et métiers, je devais et voulais fatalement être polytechnicien et ingénieur aéronautique. J'ai tenté d'étudier les mathématiques. Il a tenté. Et vous vous mettez à rêver de bicornes, d'épées, de pantalons noirs à bandes rouges, de boutons dorés. Vous dessinez des avions et puis vous voilà à présent parmi nous à l'Académie des Beaux-Arts. Après des études brillantes au lycée Fermat de Toulouse, s'en suivirent 3 années de prépa pour Polytechnique. Peut-être est-ce là d'ailleurs la fenêtre que vous auriez voulu ouvrir. Et pourtant vous y renoncez. Cette 3e année, année supplémentaire de prépa, aura pour but de vous permettre d'échapper au service du travail obligatoire. Mais vous êtes malgré cela appelé par le STO et vous partez pour les chantiers de jeunesse de Vichy. Puis, afin de poursuivre d'autres études, vous entrez à l'École des Beaux-Arts de Toulouse où vous passerez le concours d'admission, phase sélective, souvent peu égalitaire, pour entrer dans cette voie de l'architecture. Mais Toulouse ne vous semble pas avoir la capacité suffisante pour en brancher et étancher votre soif de connaissances et pour apprendre ce métier. Vous arrivez à Paris et vous entrez dans l'atelier Charles Marisquet. Si ce professeur est un remarquable pédagogue pour quelqu'un au cursus scolaire brillant, il va susciter chez vous le développement d'un esprit contradictoire, d'approche de l'architecture. Faisant partie du même atelier, nous remarquons tous votre turbulence et votre curiosité vous amènent à fréquenter les couloirs de Le Corbusier. Vous tenez même un discours révolutionniste sur l'architecture de demain. Vous poursuivez vos études, mais vous ne chercherez pas ce diplôme ni le concours de Rome, tant convoité par beaucoup. Votre indépendance s'affiche clairement. Vous construirez sans diplôme, ce qui n'est pas une nouveauté dans cette profession, mais constituera un acte courageux après les décisions de Vichy de créer un ordre de régulation. Votre vie professionnelle s'avérera tumultueuse. L'absence d'études d'architecture, couronnée par un parchemin, conquis auprès des notables, vous engagera sur une voie peu stable. Mais votre volonté allait vous en ouvrir la route et nous allons voir de quelle manière. En 1956, vous faites vos débuts à la revue « Architecture d'aujourd'hui ». Votre instinct est prémonitoire quand vous entrez en relation avec André Bloch, qui dirige une véritable revue d'architecture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Sa plume parle vrai et s'ouvre sur le futur. Combien de nos confrères redoutent à l'époque sa lecture ? Nous nous retrouverons encore une fois ensemble comme membres du comité de rédaction avec Bernard Zerfus. Vous ferez encore preuve de courage en construisant pour ce même André Bloch, et toujours sans diplôme, sa propriété du Cap d'Antibes, aujourd'hui classée. Mais qui êtes-vous en réalité ? Un architecte qui se voue à l'avenir, à des choix utiles pour le futur ? En 1957, une première exposition de vos dessins, organisée à Amsterdam par le célèbre conservateur Stedelijk au Rijksmuseum, vous fait qualifier par la critique néerlandaise de farfelu. De 64 à 66, vous prendrez en main votre truelle. Vous élèverez l'église Sainte-Bernadette à Nevers, également classée. Elle sera votre premier fait d'armes. Être dans le futur, à l'avant-garde, vous expose naturellement aux foudres de la critique. Vous utilisez le vocabulaire du mur de l'Atlantique, masse stable, mais en réalisant un arc déprimé au sommet. Les fentes des visées verticales y sont accompagnées de vitraux. Il s'agira d'un édifice unique où des plans inclinés y trouvent vie. Ce sera, expliquez-vous toujours dans votre livre, le pavé jeté dans la mare des HLM. Si l'intérieur est un mouvement, il accueille pleinement la lumière. Cette masse n'est pas incohérente. Bien au contraire, on y retrouve l'univers de Dieu tel que vous l'avez pensé et que vous souhaitez le fixer pour l'éternité. Considérée à l'origine comme scandaleuse, cette architecture a été menée à bonne fin, car c'est le peuple qui en est le meilleur juge. La conviction et la vérité cherchent et trouvent leur chemin à travers d'un dialogue non irritant, mais confortant pour le Créateur. Vous fûtes jeté en pâture au public alors que cette feuille de route du bonheur vous était acquise. En 1966, André Malraux, ministre de la Culture, vous délivrera le permis de conduire sur la route de l'espace, sans parchemin universitaire, et qui sera aujourd'hui votre doctorat. En 1968, le vaste vaisseau suspendu du pavillon de l'Iran à la cité universitaire verra le jour. Après bien des difficultés, certaines plus insultantes que raisonnables, telles que l'avis de la commission de sécurité, hostile au grand portique en acier, vous démontre que sous l'action du feu, ce matériau deviendrait élastique et ne pourrait immobiliser ce bâtiment impressionnant, une référence technocratique qui ne vous a cependant pas troublé pour poursuivre ce métier. En 1969, M. Reynald Arnoux vous offre les Galeries nationales du Grand Palais pour une exposition suivie par celle de vos dessins originaux au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, alors dirigée par Jean Adhémar. Je souhaiterais vous faire remarquer ici que peu d'architectes en dehors de Wright, de Le Corbusier et d'Oscar de Meyer ont ainsi eu droit à des expositions parisiennes. 70 verra la naissance de l'architecture oblique. Alors là, nous rentrons dans un autre lieu. Le soleil brille et vous apporte aide et soutien, car depuis 1966, vous avez conquis la liberté professionnelle. C'est à cette période que vous avez voulu vous démarquer de l'académisme d'une architecture manipulée par quelques privilégiés en lançant trois mots, la pensée oblique, qui firent tant de bruit dans notre métier. Vous fûtes alors catalogué comme terroriste de l'architecture. En faisant basculer le savoir diffusé par un professeur à chancelant, vous alliez pénétrer non seulement le terrain professionnel, mais encore l'enseignement. Votre proposition ne pouvait intéresser le vigoureux corps des ponts et chaussées, bien sûr. Ces idées n'ont pas de fin. Elles sont bien au contraire un commencement et vont jouer un rôle plus important que la construction d'une tour à New York, gérée par des sociétés financières, ou encore bien d'autres exemples qui pourraient être cités et qui ont été conduits par la technicité américaine que nous réprouvons quelquefois. Peut-être est-ce l'absence d'urbanisme, confortée par la médiatisation, où figure l'expression constructive du délabrement de nos sociétés qui vous a poussé à l'audace. Cette pensée oblique, en quoi consiste-t-elle? Est-elle bien le prolongement du parcours de l'homme, allant d'un point à un autre et franchissant convenablement les différences? Quelles différences? Celles voulues par l'homme. L'occupation de l'espace, qui vient toujours de l'esprit de l'homme, est le moteur de sa vie et de son adaptation aux obstacles. L'utopie comédie, développée même par vos ennemis, n'avait aucun lien avec les difficultés. L'escalier s'estompe, ce qui est un événement depuis que l'homme existe. La recherche a toujours transformé le monde de l'architecture. Mais dans sa quête, dans son interprétation, il bouscule tout, et notamment la ligne droite consacrée par la tradition, alors que la courbe se retrouve dans toutes les formes sensibles. Longtemps, je vous ai soupçonné de vouloir combattre l'angle droit sans aborder la courbe. Peut-être, et malgré l'amitié qui nous lie, ai-je une vision irréaliste de la pensée oblique. Ce qui m'amène aujourd'hui à dire que la technologie moderne des liaisons obliques conforte bien votre pensée, car il s'agit bien du chemin suivi en permanence par l'homme. L'oblique n'est pas toujours facile à percevoir, surtout quand les risques sont importants pour l'exécution. La sécurité et la conviction humaine. Nous savons combien il est important de convaincre l'environnement, car seul le dialogue nous permet d'aboutir. En effet, être oblique peut comporter des difficultés. Je ne parlerai pas ici de l'incident résultant de la technique employée pour la tour de Pise, mais beaucoup plus simplement des difficultés rencontrées lors de la réalisation d'une véritable tour oblique utilisable par le public où sur 200 mètres, un transport parabolique glisse sans guide humain et à l'oblique. Cette pensée oblique n'a jamais heurté les créateurs, mais a su au contraire susciter l'enthousiasme de ceux qui recherchaient l'utopie avec équilibre. En un demi-siècle, l'espace a bien changé. Pour nous en s'en convaincre, il suffit de regarder le désert, où les villes se créent, tant au sol qu'en hauteur. Une nouvelle mobilisation de l'espace est née. Par ailleurs, je relève que la ville de Douai, vous avez construit une vaste estrade oblique où assis, vous arrondiez la foule avec un micro afin de rendre la pensée oblique populaire. Vous êtes un personnage curieux. En 1974, vous faites la rencontre de Michel Hugues, alors en charge de la réalisation des centrales nucléaires françaises qui aujourd'hui produisent 80% de nos ressources énergétiques en électricité. Cette orientation, nous la devons au Premier ministre d'alors, M. Pierre Messmer, qui, envisageant l'avenir, prit cette décision et nous libéra de la puissante hégémonie du pétrole pour de nombreuses années. L'importance de ce programme et la puissance de l'ingénierie face à l'architecture des coloristes et des paysagistes des centrales de l'époque relevait du défi. Afin de pouvoir répondre brillamment aux joutes prévisibles entre architectes et ingénieurs, vous avez formé un collège d'architectes dont je fis partie, ainsi que notre confrère Paul Andreu. Ce fut un challenge intéressant, mais difficile à mener, car sans l'aide attentive de Michel Hugues, rien n'aurait été possible. Quand ce corps puissant des ingénieurs admit notre présence aux réunions de conception, un pas important venait d'être franchi. Les combats contre les écologistes furent menés par les architectes en élaborant une conception de plan masse qui permit de faire surgir des exemples ayant valeur internationale, tels que Paluel et Penly. Au sein de cette nouvelle organisation, vous aviez, ce qui n'était pas chose aisée, aménager les différentes sensibilités face à l'intrusion de l'esprit architectural. Après la rencontre avec ce directeur hors du commun, Michel Hugues, la porte des centrales nucléaires est dorénavant ouverte à l'architecture, et ce, sans arrière-pensée. Au sein de ce nouvel univers, l'architecture côtoie les ingénieurs ainsi que les états-majors des grandes et redoutables entreprises. Michel Hugues, ingénieur, est entièrement d'accord pour penser que les premières initiatives traduisant une évolution devant s'appuyer sur l'extérieur, dans le collège formé de personnalités de notre profession, vous aurez ce qui n'est pas facile à conjurer, les délicats problèmes de sensibilité. Comment, sans cet apport, la centrale de Paluel, remarquable équipement, située sur la côte, et celle de Penly, enfouie dans un écrin de verdure, aurait-elle pu surgir? Cet événement fut-il sain? Bien au contraire, il fut la conclusion de nombreuses discussions. Il s'agit donc là d'un point majeur que le monde entier a reconnu comme la caractéristique des installations françaises. Ce succès ira jusqu'à s'ancrer en Chine, au Japon, aux USA. C'était donc la preuve que la technique ne peut seule révéler la création et l'harmonie des grands ouvrages. Votre combat pour les centrales nucléaires est permanent, de 78 à 90. Vous réalisez en effet successivement les centrales de Cattenom, puis celle de Chooz. Ces deux équipements de plaine seront réalisés à partir d'un grand parc paysager de qualité où tout votre talent est présent. Mais ici, pas d'oblique, simplement une présence silencieuse et l'éloignement des risques. En 1985, les services de l'EDF de Lyon vous contactent et le CEPTEN vous confie la réalisation de leur chaise sociale, soit 40 000 m² de bureaux. En 1991, vous achevez l'hôtel de région de Marseille. Vous préviendrez, malgré les contraintes rencontrées émanant d'une association locale, à réaliser un ouvrage très expressif. En 1991, l'industriel Kemberley vous propose de réaliser son usine de 50 000 m² à Toul. De 1991 à 1994, vous réalisez sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le bâtiment Roissy-Rennes. C'est peut-être là que germa l'idée de vous envoler vers le cœur de l'Europe. Ce sera alors Prague avec l'honorable Caisse des dépôts, 35 000 m² de bureaux donnant sur le théâtre de Mozart, par un passage ouvert et commercial. Encore une fois, de nombreuses difficultés surgiront, que vous surmonterez, parvenant à une construction de qualité donnant sur l'avenue Milsbeck, qui sera réalisée entre 1991 et 1994. De 93 à 98, vous vous consacrez à ce remarquable ouvrage qu'est l'hôtel de ville de la cité de Lillebonne, en Normandie, qui trouvera tout naturellement sa place. Nous savons tous ici combien vous vous êtes battu pour l'architecture, pour l'urbanisme. Vous avez su, dans vos nombreux articles, valoriser une pédagogie silencieuse de l'architecture. Mais comme vous le redoutiez, il n'existait pas de journaliste pour poursuivre votre tâche à l'exemple de, nos grands quotidiens. Cet épisode est très révélateur. Celui qui n'avait rien compris à l'architecture devenait rédacteur d'une chronique consacrée à l'architecture. Les temps ont changé. La richesse a créé les grands chantiers sans prix ni objectif, avec un code des marchés publics souple, adapté à un réalisateur protégé. La prise de conscience de la crise certaine fut laissée aux acteurs politiques en tant que ressource électorale de ces lieux. Vos combats fleurs et mouchetés ont souvent pour origine des potiches qui ne partagent pas votre feuille de route, mais partagent ce dont la France souffre le plus, la connivence. Par ailleurs, vous apportez beaucoup dans la conception des locaux scolaires en France. Lycées et collèges, Paris ne vous ouvrira aucune porte, tandis que Marseille vous permettra de terminer l'hôtel de région, difficile association. Résidence de l'Iran, à la cité universitaire où vous vous échapperez du béton pour venir vers l'acier. J'ai pu lire dans vos mémoires que l'architecte qui vous avait le plus marqué était sans aucun doute Louis Kahn, qui révéla pendant 2 heures le monde métaphysique de l'architecture. On peut dire que Dieu était à ses côtés. À chaque instant transparaissait sa passion. Ses œuvres envoûtaient les esprits, mais il ne laissait jamais découvrir la dimension métaphysique de l'imagination. Plus loin, vous qualifiez encore ces instants de béni, d'inoubliables. Vous écrivez que la lecture en profondeur d'un créateur représente pour vous un des documents essentiels dans l'échange d'énergie entre les hommes. Je crois que vous avez atteint la perfection crédible dans vos portraits d'architectes, où les échantillons sont très divers. Vous y faites une analyse courageuse que beaucoup hésiteraient à faire. J'en retiens aussi, derrière la lumière rouge, dans le bac des révélateurs, apparaît la conscience profonde de chacun. En l'an 2000, le polémiste est de retour. Vous parcourez le monde entier et fréquentez tout particulièrement vos confrères étrangers. Le langage dont vous avez été l'initiateur connaît enfin la gloire. Peu de temps avant sa disparition, j'ai rencontré Bruno Zevi à Rome. Comme vous, j'ai été frappé par son extraordinaire présence, par sa puissance, par son équilibre et sa certitude architecturale. Il était l'exemple vivant d'une acuité analytique sans précédent. La générosité de l'homme correspondait aux grandes prouesses de l'architecture, au choc de son esprit, dont elle sortit toujours survoltée. Je vous cite, et je suis entièrement d'accord avec vous sur cette analyse. Un chef d'État français s'exclama un jour, « On ne peut pas se figer dans le passé. Paris n'est pas une ville morte. Ce n'est pas un musée à entretenir. Nous sommes des conservateurs de civilisation. Nous savons tous que l'urbanisme de Paris n'est pas entre les rails de tramway, mais dans la conquête de l'espace. Paris doit s'étendre, devenir une véritable mégapole ou une périphérie éclatée. Il faut faire vivre un nouvel urbanisme afin que les véritables espaces soient concédés aux familles déplacées. Je sais aussi combien vous êtes attaché aux arts plastiques et à l'art contemporain, qui sont en perpétuel mouvement, et c'est bien. Il n'est peut-être pas confortable, parce que pas sûr de lui. En effet, l'héritage du passé est lourd et l'avenir trop diffus. Vous fûtes un ami d'Yves Klein, le pionnier d'un art expérimental, avec ses monochromes bleus, roses ou or, ses peintures de feu, ses reliefs planétaires, tandis que le même courant se retrouvait dans les sonorités mathématiques et automatiques des musiques de Xenakis et que Le Corbusier œuvrait sur la scène mondiale. Comment ne pas citer Guillaume Apollinaire ? L'art contemporain est un art par essence contradictoire, strict comme les mathématiques ou violemment lyrique, sincère jusqu'à l'impudeur ou insolent dans l'imposture. Cet art, toujours à l'affût du lendemain, n'est-ce pas l'image de notre monde ? Si je vous associe à l'art contemporain, c'est qu'à son image, il symbolise cette recherche crispée et passionnante du nouveau et de l'inconnu. Monsieur, bien que vous paraissiez aujourd'hui apaisé, ce qui n'est peut-être pas le cas, il y a toujours eu en vous un esprit de révolte contre ce métier, mais c'est bien ce que représentait l'art pour l'artiste qui lui permettra d'exprimer sa créativité dans la dignité. Monsieur, êtes-vous cet architecte qui fait le don du soi dans sa création, celui qui n'a pas créé pour lui, qui ne garde pas par devers lui ce qu'il donne, et puis qui parlait pour un nouveau cycle où votre connaissance vous permet de mieux comprendre pour agir à nouveau et donner par amour pour créer. Monsieur, vous aimez provoquer l'espace, ouvrir l'emprise du monde silencieux de la création. Vous n'êtes vraiment satisfait que lorsque vous vous distinguez, comme le démontre votre affection spontanée pour les voitures rapides réservées à une classe élevée dans l'opulence. Je ne vous critique pas, je vous admire. Claude Parent n'a peut-être pas réalisé à travers le monde l'imagerie médiatique que beaucoup ont su maîtriser. Mais dans ce débat sur la recherche architecturale, si aujourd'hui cette idée, la pensée oblique, mécanique ou statique, perdure, j'en partage pleinement la conviction. Devant moi, je vois des millions d'êtres humains qui l'ont adoptée pour des trajets répondant au pouvoir de l'homme. Roissien, aéroport de notre confrère Andreu, fut un très bel exemple où notre confrère a su convaincre et démontrer l'utilité de l'énergie oblique dans ce grand débat. Partout où évoluent des foules, l'oblique assure confort et sécurité. En fait, parcourir l'oblique, le droit ou le circulaire, est la preuve que cette volonté de la rampe fut distillée avec raison. Le major de l'architecture, Frank Loraic, réalisa son musée dont l'idée futuriste fit basculer dans la vraisemblance. Le parcours de l'art dans la promenade oblique dont Richard Meyer reprit l'idée à Atlanta. Tous les ouvrages à grande densité de population que nous construisons utilisent le principe des rampes d'accès. Citons pour l'exemple les stades de Nord-Américains construits pour les Jeux Olympiques et où 80 000 personnes peuvent s'évacuer en moins de 10 minutes grâce à des rampes et à près de 100 escaliers mobiles ou à double inverseur de circulation. L'oblique ainsi créé leur confère la sécurité nécessaire et assure la rapidité des flux humains. Infiltrer une profession aussi secrète pour son passé constituera pour vous une performance aussi immense que la valorisation médiatique de nos plus grands acteurs. Notre propos n'est pas ici de démontrer que l'Académie doit confirmer qu'à travers une volonté souterraine, il existe une volonté permanente de guider l'homme dans ses choix et ses fonctions pour son bien. Vous en avez été l'initiateur et donc l'inspirateur et le guide, qui, sans vous soupçonner, pourrait bien être le combat de l'angle droit. Vous avez aussi compris que dans la vie d'un architecte, il y a plusieurs façons d'ennoblir notre fonction. Bien sûr, par l'enseignement. Vous n'avez jamais recherché le contextuel, bien qu'une certaine école fût votre emprise. Dans ce domaine également, vous avez lancé des idées originales qui ont fait rêver la jeune architecture. L'architecture oblique représentera pour vous une formation s'ouvrant sur la voie que l'homme emprunte et qu'il utilise parfois inconsciemment. Il existe et s'applique à des lieux et à des actions précises dans notre environnement. Je citerai l'escalier, bien sûr, le tapis roulant reliant entre deux niveaux, grâce à l'oblique et figurant bien le parcours de l'homme. En réalité, vous inventez la machine à remonter le temps. Peut-être allez-vous nous le confirmer tout à l'heure. Avez-vous voulu conforter une voie qui existe depuis des siècles? Nous croyons tous que vous avez créé un lien très fort entre le passé et le futur. Pour faire les rapprochements les plus audacieux, rien ne vaut le hasard. C'est ce que certains désignent sous le vocable de combinaison aléatoire. La dissociation de Kessler, la pensée latérale de Bono, il y a en fait hybridation mentale. Les rêves et surtout les songes sont la voie royale de la créativité. Seriez-vous de ceux-là? Combien de peintres ont déclaré avoir non seulement trouvé leur inspiration, mais vu leur tableau en rêve, comme William Blake, Magritte, Jacobi, Chagall, Dali et bien d'autres, sans que nous ne les sachions. De nombreux scientifiques également ont fait leur découverte au cours de leurs rêves. Souhaitons qu'après un de vos rêves, vous vous exposiez cette pensée oblique telle que vous l'auriez inspirée. L'art doit être absurde, recèle bien des significations, il nous apaise par la psychothérapie, il réveille, il suscite notre créativité. L'essentiel est bien de créer de la beauté, de la faire aimer. Mais de même que la beauté est la splendeur de l'être, il a pour mission de nous faire pénétrer au cœur de l'être. Monsieur, vous êtes bien un artiste. Vous êtes le témoin vivant qui pénètre la force des œuvres architecturales, où la science de l'architecture et les mathématiques conduisent vers des formes où la beauté envahit le cœur. Des hommes pour un monde meilleur, où l'harmonie pénètre nos pensées et bien sûr influe sur notre personnalité. L'architecture conquiert l'espace, ouvre silencieusement ses arcades plastiques et poétiques afin de construire la véritable paix de l'âme. Vous avez des ailes pour voler, vous résistez à la tempête comme à l'azur. Maintenant, mon cher architecte, vous allez prendre la parole et nous faire revivre à présent un grand confrère. Mais je n'oublie pas votre amitié pour Jacques Coël, qui a su faire entrer bien avant ses confrères le paysage dans l'architecture. Tentons, tout en volant au-dessus de l'ego de l'enseignement supérieur. Je vous remercie.
Monsieur Claude Parent, nous sommes impatients d'entendre votre éloge de Jean Balladur, car il ne va pas manquer d'évoquer une cité maritime très familière aux Méditerranéens dont je suis, et nous vous donnons immédiatement la parole.
Messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, monsieur le conseiller représentant le ministre de la Culture, mesdames, messieurs. Préambule. Certains comptent sur moi pour faire rire. Il n'en est pas question sous la coupole. Ne comptez pas sur moi. Jacques-Louis Binet souhaite que j'improvise, comme lorsqu'à l'Académie de médecine, j'avais expliqué ce qu'était la marche et son déséquilibre permanent aux médecins médusés. Il n'est pas question ici de déstabiliser qui que ce soit. Mon frère aîné, Michel, espère que je traiterai du patrimoine dont il est grand maître et expert. Je le salue, ainsi que mon confrère Boiret, architecte des monuments, en chef des monuments historiques, mais je ne traiterai que de l'actualité architecturale. Ma femme, mes enfants et mes petits-enfants m'ont supplié de faire court. Je vais faire de mon mieux, mais je ne promets rien, parce que quand même, c'est la première et dernière fois que je vais me trouver sous cette coupole avec des gens aussi bien choisis que vous, aussi attentifs. Et pourquoi voulez-vous que je sois frustré en accélérant mon débit ? Alors vraiment, aucune raison. Il faut que je sois heureux, moi aussi. Hein ? D'autant plus que, avant de parler de mon prédécesseur et vieux compagnon de lutte et ami Jean Balladur, je veux décrire la scène. Et ça, je vais la décrire de façon un peu dramatique. La scène du drame de l'architecture, car c'est du tragique, de son tragique, que je vais discourir. Vous voilà très avertis. On est loin de la rigolade. L'impasse. En France, en ces temps de modernité ambiguë, on constate que s'opposent, sans la moindre retenue, sans le moindre souci d'autocritique, l'arrogance et le doute en matière de ville. Ainsi, le discours triomphaliste de la technocratie. La technocratie, c'est un mot passe-partout que j'emploie très, très ample. Hein. On peut tous se reconnaître là-dedans, c'est pas grave. Ainsi, dans le discours triomphaliste de la technocratie, qui estime avoir, de par sa formation, une compétence assurée dans la maîtrise urbaine, ce discours s'oppose-t-il au doute qui, faisant partie de la culture de l'architecte, le guide dans sa façon de penser et d'agir. Face à ce conflit originel, l'architecte s'interroge sur ses propres capacités et en vient tout naturellement à douter de la légitimité même de son intervention. Le doute, au lieu d'être son atout maître, se transforme pour lui en barrière de la pensée, un empêchement à imaginer. Catastrophe. Dans cette faille de l'esprit s'engouffre la dite technocratie qui soumet l'architecte, le plie, le replie, le fait passer par le filtre de commissions en tout genre, territoire, comme vous le savez, privilégié de l'administration et souvent même de la politique. L'architecte, malgré les efforts de nos ministres de la Culture, l'architecte est donc émasculé dans le préalable à toute production architecturale du tissu urbain. Je parle bien de la ville. Puisque je parle de Balladur, je parle de la ville. Je ne parle pas du reste. Pour persister à exister si peu que ce soit dans ce domaine, l'architecte est obligé de se soumettre, de travailler sous contrainte. Il se borne à répondre de son mieux aux décisions de ceux que l'on appelle aujourd'hui les donneurs d'ordre, ordre qui relève plus de la recherche du profit immédiat ou de l'exercice de l'abus d'autorité que de l'espérance du sensible. Ce système pratiquement carcéral s'oppose à toute façon intuitive de traiter la ville en déniant à l'imagination d'être le composant essentiel et privilégié de la réflexion sur l'urbain. Il bannit l'imaginaire dès l'origine de l'étude, le chasse du projet à seule fin de laisser l'autorité absolue à la démarche rationnelle. Abdiquer sa liberté, se fondre dans une équipe dite pluridisciplinaire, joli mot à la mode, où sa voix est noyée dès l'origine dans les discours impératifs des multiples intervenants qui se réservent de faire la synthèse, tel est le lot de l'architecte aujourd'hui. On le consulte de temps en temps, sans pour autant devoir tenir compte de son avis. L'architecte est désormais un consultatif. C'est le prix à payer pour rester un acteur intégré dans l'acte de construire. Mais comme les responsables ne sollicitent que de moins en moins ces conseils, l'architecte est devenu un consultatif non consulté. Si vous ajoutez à ça la précarité et l'intermittence, vous voyez le tableau. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Cette situation est donc grave, car elle permet à la dite technocratie suspicieuse de repousser toute pratique imprécise de la fulgurance, fulgurance telle que l'aiment les peintres, les sculpteurs, les musiciens, les écrivains, les architectes et les graveurs. En bref, elle englue les artistes et les poètes dans les interdits techniques et les règles financières à seule fin de dénaturer leurs interventions et de mettre sous contrôle leurs propositions. De démission en dégradation, on en arrive, comme le dit notre confrère Roger Taillibert, assis ici présent, à considérer et à comptabiliser l'architecte, je le cite, sous l'éclairage du code des marchés publics qu'il vient d'évoquer, comme un simple sac de ciment. Ce sont ces termes. Ce ne sont pas des termes académiques, mais il les prononce volontiers. Quand le préfet Haussmann s'est occupé de Paris, par son action arrogante et même, on pourrait dire, punitive, il a éventré les quartiers moyenâgeux avec ses ingénieurs en laissant seulement aux architectes les façades banalisées des immeubles plantés et alignés le long de sa voirie. La voirie du préfet, pas la voirie des architectes. Or, quand le réseau des communications est mis en place, sachez bien que la ville est faite. Les trois quarts de la ville sont en place. Et ce ne sont pas les quelques babioles de luxe qu'on laisse comme les restes d'un festin à quelques architectes choisis qui amélioreront un ensemble aussi prédéterminé. Aujourd'hui, les grands architectes, qui ne veulent pas se contenter d'empiler les logements, construisent à l'étranger, où l'air architectural est plus léger et l'imagination plus libre, même dans des pays moins libres. À Paris, on est à un tel point de blocage, de perversion urbaine et de démobilisation citoyenne que les Halles, comme nous l'avons vu, ne se feront pas ou ne se feront jamais et qu'il ne restera aux architectes qu'à suivre le discours confus et bien pensant des Verts pour, comme disait notre ami Taillibert, engazonner les rails de tramway. Le Chevalier Blanc. La seule façon de sortir de cette impasse est de faire appel au Chevalier Blanc. Ce héros au cœur pur, auréolé de sensibilité et croisé engagé contre l'injustice. Le Chevalier Blanc est avant tout un homme de foi qui engage sa vie pour une cause jusqu'à la mort. Cet être des légendes porte secours à l'orphelin, protège sa dame, aime son cheval et ne se déplace qu'en armure en brandissant sa flamboyante épée. Bref, vous le voyez, tout le portrait d'un académicien. Le nôtre porte un nom. Il s'appelle Jean Balladur, le Preux, seigneur du Roussillon et duc du Languedoc. Lorsqu'il fut appelé par les hautes instances à faire exemple en son fief pour sauver l'architecture, notre chevalier blanc parcourut longuement sa côte méditerranéenne faite d'étangs saumâtres, de terre brûlée, de sable urticant et de moustiques. Le paysage lui sembla si ingrat, si désertique, si vide de présence humaine, que Jean Balladur douta de sa mission. Il hésita. Il se fit attentif aux symboles, aux mirages et à la providence. Il se raconte. Soudain, un cavalier, accompagné d'un seul mouton, fut le signe de la délivrance de mes angoisses. Signe qui, malgré toutes les difficultés ressenties, me fit prendre la décision de répondre par l'affirmatif au ministre Mazion. Fermez les guillemets. À quoi tient donc le destin d'une ville ? À ce cavalier fourbu, poursuivant ce seul mouton éthique, à la pantoufle de verre de Cendrillon ? Certes, car il s'agit bien là d'un rêve. Le chevalier blanc n'a qu'une idée en tête, une idée fixe, aller envers et contre tous jusqu'au bout de son rêve. On est d'un autre côté du miroir. Du coup, tout se transforme et Jean Balladur écrit « C'est du ciel que venait le réconfort le plus immédiat. L'espace flottait entre la mer et les Cévennes. Les eaux dormantes détrempaient la lumière et rompaient avec la caresse de leurs reflets la vivacité du soleil. Voilà transformé un site abandonné en une terre paradisiaque. Le rêve est amorcé. Les faits se penchent sur le berceau, et non des moines, le général de Gaulle et son premier ministre, Georges Pompidou, viennent au baptême pour prononcer l'acte de naissance. Ouvrir le littoral du Languedoc-Roussillon à l'industrie touristique. Ces deux mots associés... Ça sonne pas très bien, ça sonne mal. Mais le chevalier blanc, Jean Balladur, n'en a cure. Et avec Pierre Racine, sorte de proconsul tout puissant du moment, à tous les deux, ils font une ville, une vraie ville, avec mairie, école, garderie, boutique, etc. Dès lors, le rêve emporte tout sur son passage. L'administration et sa réglementation arrive trop tard. C'est comme ça qu'il faut faire. Trop tard. Court-circuit. Le court-circuit, pour l'architecte, c'est la méthode la meilleure. L'architecte se bat contre les moulins à vent, il s'attaque aux cosses et aux posses. Vous m'excuserez. Je vous dirai ce qu'il faut tout à l'heure, si vous voulez ce que c'est. Deux bêtes nuisibles planifiant l'occupation du sol dans la France entière et il les décapite d'un revers de l'épée. Mais notre chevalier s'inquiète. Il sait qu'une ville, pour survivre, doit être fondée. Il sait que dans le passé, l'acte de fondation d'une ville correspondait à une importante liturgie à laquelle participait le peuple concerné. Il se souvient d'Auguste Perret, autre ville qui a ouvert le Havre sur le vide de l'océan par la fameuse porte océane. Il connaît Chandigarh, où Le Corbusier s'est employé à exprimer une sorte de mythe social, celui de la ville idéale. Il observe Oscar Niemeyer, qui donne pour sa ville prépondérance au minéral et glorifie la conquête de l'urbain sur la forêt vierge. Il sait qu'il n'a plus le droit de dresser une enceinte. Ce n'est plus dans nos mœurs. Tout juste a-t-il la possibilité de travailler à l'intérieur d'un périmètre tracé sur une carte, et pour toute liturgie, il a la possibilité de couper au ciseau un ruban tricolore. Pauvre célébration, quand même. Quelle dégringolade. Mais Jean Balladur s'obstine. Sa ville sera fondée ou elle ne sera pas, puisque notre laïcité lui interdit toute pompe religieuse, puisque la marque du loisir lui semble un peu trop faible pour être célébré, il dédiera sa ville au couple homme-femme. Il incarnera en elle l'image même de la vie, la référence mâle-femelle, et la traduira dans ses formes architecturales. C'est un symbole simple, bien ancré dans la population, un symbole accessible à tous et fort. Inutile pour notre chevalier blanc d'invoquer Adam et Ève, l'architecture lui servira à traduire cette dualité en osmose. Et s'il se trompe, peu lui importe. Avant tout, il est aventureux, c'est un aventurier, pas une bonne sœur. Personne ne sait d'ailleurs encore combien d'hommes a trucidé Galaad avant de découvrir le Graal. Personne ne le sait, aucun historien. Il doit y avoir une histoire grave là-dessous. Seul compte le résultat pour Jean Balladur. Seule ligne de conduite répond à la certitude et à l'exigence du rêve. D'un côté, le port Camargue, tout en courbe et contre-courbe, se dort au soleil dans ses enroulements alanguis. De l'autre, se révèle brutalement le rythme syncopé des pyramides à quatre faces hérissant le plat pays. Car dans cette ville, il a fait les objets architecturaux. Inutile de dire où est le mâle et où se cache la femelle. Il suffirait de voir Jean Balladur, comme je l'ai vu, esquisser à grands coups de feutres de couleurs sur les cartes du littoral le rapport amoureux de sa ville. Chaque courbe se prolonge de l'une sur l'autre pour constituer la sinusoïde du port. Chaque pyramide se dressait orgueilleuse vers le ciel dans son langage décoratif. Continuité et rupture. D'un côté à l'autre, les ombres se distribuent autrement. Douce et progressive sur la femme, comme une houle, heurtée et franche dans leur découpe chez l'homme, comme les vagues courtes de la Méditerranée. Comment savoir si la Grande Motte est belle, si c'est une belle ville? Il est encore trop tôt pour le dire. Une ville, ça met longtemps à mûrir, très longtemps. Mais on peut affirmer qu'il s'agit d'une vraie ville et qu'elle est déjà incarnée dans son sol et que cette fondation homme-femme, un peu bizarre, un peu surprenante, est entrée dans la tête des habitants. Elle fonctionne. Le tout maintenant est de veiller au grain et d'éviter que cette réussite n'attire pas des profiteurs décidés à amalgamer leur baraquement sans esprit et bikwakatuva dans cet univers parfaitement constitué. Si le chevalier blanc ne peut plus brandir son épée d'académicien contre les vandales, il faudra prendre sa place pour protéger sa ville des destructeurs à l'affût. Quand Jean Balladur a construit la Grande Motte, il avait 35 ans. Nous étions en 1963 et le général de Gaulle était président de la République. Une telle expérience pourrait-elle se renouveler aujourd'hui? Il ne faut pas trop y croire, car les chevaliers blancs sont en voie de disparition. Ils sont passés de mode. L'époque ne leur est plus favorable, ou plutôt, elle ne se laisse plus surprendre par leur singularité inclassable. Elle ne se laisse plus aller aux rêves éveillés. Nous sommes au temps des moyennes, des catégories, des colonnes de chiffres, à l'époque des normes, de la sécurité garantie et des assurances en tout genre. Il faut un siècle flamboyant pour que naissent et survivent les chevaliers blancs. Il est encore temps pour notre époque de battre sa conclusion. Notre chevalier, nous l'avons dit, aimait son cheval et ne le quittait pas. À eux deux, ils parcouraient le monde sans laisser la moindre trace de leur passage, la moindre blessure au sol. Aujourd'hui, notre couple infernal, l'homme et son automobile, dont on ne sait même pas quel est le dominant et le dominé, ravage la planète. Il la grignote comme le termite. En un siècle, il a bouffé Madagascar, une bonne partie de l'Afrique et s'attaque à la forêt amazonienne. Rien ne l'arrêtera sur Terre dans sa soif de destruction. L'Europe est depuis longtemps sous contrôle. Alors à mon tour, je prends mon épée pacifique que vous allez me donner tout à l'heure et je vous raconte mon histoire. Je rêve d'une ville sans rue, sans avenue, sans boulevard périphérique. Une ville dont le tissu urbain, dont les habitations sont à touche-touche en continuité. Pensez à une coulée de lave sur les flancs du Vésuve. Pensez à habiter dans l'océan et pas sur l'océan, comme vous faites en ce moment. Pensez à la forêt primaire ou à la forêt vierge que vous taillez à la machette pour forcer le passage et trouver votre bulle habitable. Remontez le temps, avec moi, jusqu'en 9000 ans avant Jésus-Christ, et habitez Çatalhöyük, sur les hauts plateaux de Turquie. Cette ville est sans aucune rue. Il y vivait 30 000 habitants qui ne communiquaient que par sa terrasse parcourable et communautaire. Dans cette couche urbaine à laquelle je vous convie, qui couvre le sol, taillez vous-même vos accès, vos respirations, creusez votre lumière à votre gré, sans plan quinquennal, sans planification du territoire. L'architecture des façades ne posera plus dans cette ville ces vaines et éternelles questions de style. Seul l'espace habitable compte. Il s'agit seulement de le tricoter, puis de l'inciser à bon escient. Cette incision urbaine stoppe le gaspillage du sol de la planète. Y serions-nous heureux? Cela, c'est votre affaire. Moi, je ne peux que vous offrir ce rêve. Vous pouvez en rire, vous pouvez y croire, cela ne regarde que vous. Mais pourquoi ai-je fait ce rêve? Ce rêve qui me semble si légitime, sinon parce que nous assistons impuissants à ce partage inquiétant de notre univers. toute notre infrastructure s'empare de la planète, vole notre terre nourricière au détriment de l'homme. Une lutte à mort dont il sortira vaincu et obligé de s'expatrier après avoir gaspillé son espace vers d'autres mondes, vers Pluton, Mars ou sur les anneaux gazeux de Saturne. Ce déracinement total est déjà en marche, car on commence à comprendre que la Terre, à terme, ne sera plus habitable. L'homme devra s'adapter pour survivre dans ces autres mondes. Il se transformera et nous, les anciens terriens, ne le reconnaîtrons pas. Tous mes efforts d'architecte se font depuis 40 ans pour améliorer l'usage que l'on fait de la Terre, pour vivre et habiter. La fonction oblique, dont Tayyip Ber a parlé, que j'ai amorcée avec Paul Virilio, est un premier pas vers cette économie globale du sol et vers une façon d'habiter plus intelligente et plus saine. Aujourd'hui, je m'efforce d'imaginer cette agglomération continue et sans rue. Donnant ce programme l'année dernière aux élèves de l'école spéciale d'architecture, j'ai eu la joie et la surprise de voir quelques élèves de 19 ans à peine répondre avec enthousiasme à ce problème difficile. Ils ont proposé un tissu urbain tactile qui, sous l'impulsion de capteurs, s'ouvrirait aussitôt devant l'homme en marche et se refermerait derrière lui après son passage. Les espaces collectifs se creuseraient de même à la demande et rétréciraient après le départ des participants. Cet avenir me semble envisageable techniquement quand on pense aux dépenses qu'on va faire pour aller sur Mars. Cette forme d'économie du sol prolongerait notre présence sur Terre. C'est là le but, qu'on y reste sur notre bonne vieille Terre. Un moment encore, le plus longtemps possible, grâce à une architecture prospective. Ces jeunes m'ont donné une leçon d'espérance que je vous transmets. Cela m'a remis en mémoire, encore une rencontre avec Tayyip Ber, mon travail avec Yves Klein sur l'architecture de l'air et notre retour probable à l'âge d'or dont, vaniteux et arrogant, nous nous sommes tant éloignés. Je n'oublierai jamais qu'Yves le Monochrome, chevalier du Saint-Sépulcre, fut un temps mon chevalier bleu. Merci.
Vous avez écouté successivement le discours de réception prononcé par M. Roger Tayyip Ber de l'Académie des Beaux-Arts pour la réception de M. Claude Parent, puis le discours que M. Claude Parent a consacré à l'éloge de son prédécesseur, Jean Balladur.